Radio Okapi. Le journal François Kadima. Okapi.
Okapi midi, actualité. Au sommaire de ce journal, 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Les travaux vont se clôturer cet après-midi avec la signature par le chef de l'État et du gouvernement de la déclaration de Kinshasa. Une médiathèque en mémoire de Floribert Chebeya. Le président français l'a inauguré hier à Kinshasa en reconnaissance du travail abattu par ce défenseur de droits de l'homme. Pas assez de médicaments pour prendre en charge les malades du choléra à Malemankulu. Nous sommes au Katanga. La maladie se propage de plus en plus dans ce territoire avec 11 cas enregistrés par jour. Le 14e sommet de la francophonie se clôture ce dimanche à Kinshasa. Pour ce deuxième jour et dernier, les travaux se déroulent à huis clos avec 3 débats. Ils portent sur la diversité culturelle et éducation, les enjeux environnementaux et l'Afrique dans la francophonie ainsi que la gouvernance mondiale. Nous allons faire le point avec Donna Madimba qui se trouve sur place au Palais du Peuple.
Mon cher ami, et le programme que vous avez annoncé, à cela, il faut notamment rajouter aussi les discussions à huis clos, les rencontres bilatérales entre chefs d'État et une déclaration finale. Il ne faut pas oublier non plus la conférence de presse finale qui est annoncée comme étant la dernière activité de ce 14e sommet. C'est une conférence qui va connaître un face-à-face entre principalement les journalistes venus pour couvrir ce 14e sommet de la francophonie et face à eux, le président Kabila en tant que hôte du sommet de Kinshasa, le président du pays qui sera désigné tout à l'heure pour accueillir le prochain sommet de l'OIF, le représentant de la France, vu que le président français Hollande a déjà quitté la capitale de la RDC hier soir, et enfin le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Les journalistes auront 45 minutes pour échanger avec ce panel de personnalités. Les deux premiers points cités quant à eux, à savoir les discussions de groupes thématiques et les bilatérales entre chefs d'État, se passeront à huis clos et donc hors du contact avec les journalistes. Le programme indique la clôture officielle de tout travail lié au sommet de Kinshasa à au plus tard 13h heure locale. Pour le moment donc, les huis clos continuent et les travaux en plénière n'ont pas encore repris. À cela, il faut ajouter que hier, première journée officielle des travaux du 14e sommet de la francophonie, globalement, le programme de ce premier jour a été respecté. 8 orateurs ont pris la parole, parmi lesquels le président Kabila, le président François Hollande et Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF. Des allocutions globalement très applaudies par l'assistance de la salle du congrès du Palais du Peuple.
Merci beaucoup, Donna Madimba. On vous retrouve dans les minutes qui suivent pour les déroulements de ce 14e sommet de la francophonie. Voilà, je le disais au sommaire, le président français François Hollande a inauguré hier samedi à l'Institut français de Kinshasa une médiathèque portant le nom de Floribert Chebeya, défenseur des droits de l'homme assassiné il y a un peu plus de 2 ans. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de plusieurs défenseurs de droits de l'homme. Pour les directeurs exécutifs de la Voix des Sans Voix, l'acte posé par la France est une reconnaissance du travail qu'a battu Floribert Chebeya. Dolly Ibefou au téléphone de Berry Franklin Utchaka.
Pour nous, cette inauguration a essuyé nos larmes. Et cet acte, disons, vient de montrer que Floribert Chebeya était dans un engagement pour des valeurs universelles, même si son pays ne l'accepte pas, parce que c'est pour ça qu'on a décidé de le tuer. Mais ailleurs, on reconnaît son travail. Donc pour nous, c'est un acte d'honneur en mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazama. Et nous demandons plus de justice à ceux qui ont tué. Nous pouvons pardonner les gens que si l'État congolais accepte que c'est lui qui a organisé et exécuté l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Et l'État congolais nous donne les raisons qui l'ont poussé à le faire. Et il nous rassure si les autres défenseurs des droits de l'homme ne seront pas exécutés dans les mêmes conditions.
Entre-temps, les ONG des défenses des droits de l'homme réclament le respect du statut et de la sécurité des défenseurs de droits de l'homme dans l'espace francophone. C'est une recommandation exprimée hier à Kinshasa lors du forum sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie. Forum qui se tient en marge des travaux de la francophonie qui se clôture ce dimanche. Les détails avec Dako Tambikila.
Les organisations internationales et locales de défense des droits de l'homme expriment leurs préoccupations sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie dans plusieurs pays de l'Afrique francophone. C'est notamment les cas du Mali et de la Guinée-Bissau où les populations civiles subissent encore les effets de la guerre. Les collectifs des ONG des droits de l'homme invitent l'espace francophone au respect des processus électoraux transparents, à l'instar du Sénégal.
Exprimons notre encouragement au renforcement des institutions démocratiques dans les pays francophones par le respect des processus électoraux transparents et consensuels permettant des alternances pacifiques. Notre soutien au processus de transition démocratique engagé en Côte d'Ivoire.
Quant à la RDC, les collectifs dénoncent la réponse de la violence à l'Est, particulièrement au Nord Kivu, entraînant des violations graves des droits de l'homme dans cette partie du pays. Les ONG de défense des droits de l'homme plaident également pour que justice soit faite sur l'assassinat de leur estimé confrère, Floribert Chebeya.
Que les gouvernements congolais puissent aussi respecter la démocratie, nous sommes dans un pays où règne vraiment l'impunité.
Seule note positive pour les Congo démocratiques, les ONG de défense des droits de l'homme saluent l'adoption le 10 octobre dernier du projet de loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme par l'Assemblée nationale.
En Nord Kivu, le calme est revenu depuis hier samedi dans le secteur de Mpati, une centaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, un groupement de Bachali, Mokoto, territoire de Masisi. C'est là après les échanges de tirs qui y ont opposé jeudi et vendredi l'armée loyaliste à un groupe de militaires supposés membres du M23. Selon des sources de la société civile locale, ces combats ont mis sur le chemin des îles plusieurs centaines d'habitants de la région. Les porte-parole de la 8e région militaire affirme que les FARDC ont repoussé les assaillants et contrôlent la zone. Bernadette Nyangui.
Ces militaires supposés membres du M23 dirigés par un certain colonel Badegué sont venus majoritairement de la zone de Ngungu, en partie sud-est du territoire de Masisi. Ils sont passés par Nyabiondo, Kato et Mianja, où ils recrutaient les jeunes combattants des communautés locales avant d'atteindre Mpati, indiquent les sources de la société civile locale. D'autres rebelles du même groupe, venus du territoire de Rutshuru, se sont joints à eux avant de lancer l'offensive jeudi contre les FARDC loyalistes à Busumba, dans la zone de Mpati. Ces affrontements ont duré au moins 2 jours avant que les assaillants ne soient repoussés par les FARDC vendredi soir, affirme le porte-parole de la 8e région militaire. Côté bilan, la société civile parle de fortes pertes dans les deux camps, sans trop de détails. Pour cette source, le mobile pour ce groupe rebelle serait de contrôler la zone et récupérer une cache d'armes laissée par le CNDP sur place. Ces affrontements, ajoutent ces sources, ont mis sur le chemin d'exil plusieurs centaines de ménages d'habitants de la zone de combat, la plupart ayant fui vers Mweso et Kichanga, plus à l'est. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Sur un autre chapitre, le chef coutumier de deux chefferies, Walesse, déplore les mauvais traitements de la population du village Ndouillé, à 64 km de Mambasa, par les gardes de parc de la réserve de Fona Okapi. Selon ces chefs coutumiers qui ont livré cette information hier à Radio Okapi, la paix sociale est menacée par la tracasserie et les arrestations arbitraires de gardes de parc. Le point avec Jean-Claude Kabala de la radio Amkeni de Mambasa.
C'est depuis des semaines qu'une équipe mixée FARDC, garde des parcs, mène des opérations anti-braconnage dans les déchefferies de Walesekaro et Walesedese, situées au nord de la réserve de faune à Okapi. Mais les chefs coutumiers locaux ne croient pas à cette mission. Pour eux, ce n'est qu'une manière de tracasser les habitants. Ces éléments FARDC et les gardes des parcs arrêtent les innocents, notamment les chefs de localité et certains opérateurs économiques accusés de collaborer avec les braconniers. Du côté licencier, le conservateur principal déclare que cette réserve est devenue aujourd'hui le lieu de prédilection pour l'exploitation des matières matières précieuses, les braconnages et les coupes du bois. Ainsi, les gardes des parcs doivent-ils veiller à sa préservation? Le colonel responsable du 3e bataillon du 905e régiment des FARDC affirme de son côté avoir libéré les chefs de localité, arrêtés car soupçonnés de collaborer avec les braconniers. L'administrateur du territoire de Mambasa demande que les gardes travaillent en collaboration avec les chefs coutumiers. Pour rappel, au début de ces opérations anti-braconnage, une femme pygmée et son fils ont été tués lors d'une attaque des gardes parcs contre les braconniers. Ce genre de situation, précise la société civile locale, ne peut garantir une relation positive entre l'ICC et les communautés locales. Mambasa, Jean-Claude Kabala, Radio Mkeni pour la Radio Kapi.
Et non, cette autre nouvelle. Pour terminer, 11 cas de choléra, c'est la moyenne enregistrée par jour dans les centres de traitement de choléra de Malimankulu. Nous sommes au Katanga. Au cours de ce dernier jour, aucun décès n'a été enregistré. Seulement, les centres de traitement de choléra et la société civile s'inquiètent. La quantité de sérum encore en stock ne peut couvrir que 5 jours de prise en charge de malades. Denise Mayo nous donne plus de détails.
Ce dimanche, le centre de traitement de choléra de Malimankulu compte 14 malades. Selon les sources médicales du centre de traitement cité par le président de la société civile de Malimankulu, le nombre des cas des malades est croissant. Il est passé de 5 cas par jour il y a près de 2 semaines à 11 cas par jour la semaine dernière. Les malades viennent des zones riveraines du fleuve Congo et du lac Zimbabwe. Pour les responsables du centre de traitement de choléra, le stock de sérum encore disponible ne peut couvrir qu'une semaine. Et le centre manque de certains antibiotiques. Il y a plus d'une semaine, Malimankulu a reçu du ministre de la Santé 1200 litres de sérum. Cette quantité devait couvrir 4 zones de santé. De son côté, l'administrateur du territoire indique que l'on est encore loin d'éradiquer l'épidémie de choléra dans les territoires. La plupart des habitants consomment l'eau brute du fleuve et des lacs, malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur les traitements de l'eau. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.